Radio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire de cette édition. L'interdiction de voyager et le gel des avoirs continueront de s'appliquer aux individus et aux entités ciblées au Mali jusqu'au 31 août 2022. Cette décision a été prise hier par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les discussions autour des réformes politiques et institutionnelles continuent au sein de la classe politique. Nombreux sont ceux qui trouvent inopportunes ces réformes. Campagne agricole 2021-2022, les habitants de Kolokani se disent préoccupés par la rareté des pluies. Ils estiment que les quantités de pluie recueillies jusque-là ne permettront pas une bonne campagne. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté, Gagne Kanté assure la technique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé ce lundi de reconduire le régime des sanctions visant certains responsables des groupes armés du nord du Mali et des entités ciblées. Ces derniers sont accusés depuis 2017 d'entraver la mise en œuvre de l'accord de paix dans le nord du Mali. Ces sanctions qui portent sur le gel des avoirs et l'interdiction de voyager restent donc en vigueur jusqu'au 31 août 2022. Le Conseil a également prorogé le mandat du groupe d'experts sur le Mali au 30 septembre 2022. Imrana Kilumaiga.
Le Conseil a indiqué que ces mesures s'appliquent aux personnes et aux entités désignées par le comité. Ceux-ci sont accusés de préparer, de donner l'ordre de commettre, de financer ou de commettre au Mali des actes qui violent le droit international humanitaire et des attaques contre le personnel. Il a aussi instruit au groupe d'experts dont le mandat a été prorogé de fournir un rapport à mi-parcours au plus tard le 28 février 2022 et un rapport final avant le 15 août de la même année. Cependant, le Conseil a précisé que les mesures imposées par la présentes résolutions sont sans conséquences négatives pour la population civile du Mali. En outre, il a également souligné que les partis doivent s'employer davantage à s'approprier et à prioriser la mise en œuvre de l'accord. Enfin, le Conseil a insisté sur l'importance de garantir la participation pleine, égale et véritable des femmes dans tous les mécanismes créés dans le cadre de l'accord.
Le Conseil de sécurité s'est appuyé sur le dernier rapport trimestriel de la mission de l'ONU au Mali. Ce document note une augmentation de 25% des violations des droits de l'homme attribuées aux groupes armés et à l'armée malienne. Le collectif des membres du Conseil national de transition fustige ces rapports de l'ONU. Pour ce collectif, ces documents ne reflètent pas la réalité sur le terrain et visent à manipuler l'opinion. Aboubakar Sidiki Fomba, porte-parole du collectif des membres du CNT, joint par Adama Amadou Aïdara.
Que les forces oniguennes, la force Barkhane et les forces armées maliennes évoluent sur la même ligne. Et quand ils tuent, c'est les terroristes, mais quand c'est les forces armées maliennes, c'est les innocents. Dans le rapport, vous voyez qu'il y a des ONG qui parlent et on se pose la question comment ces ONG parviennent à avoir des informations. Et là, ils disent exaction des forces des FAMA sur la population civile. Comment est-ce qu'ils peuvent vous montrer cela? Pendant que le rôle de l'aménagement est aussi de protéger ces mêmes civils. On a vu le cas de Ogotaku, on a vu le cas de Sobanda. Et chaque fois, on ne parle pas d'exaction de l'armée française. L'armée française a tué 11 militaires, mais ils ont dit que c'était des erreurs. Le cas de Boni, même si le rapport est là, qu'est-ce qu'ils en ont fait avec? Donc nous pensons que c'est trop maintenant pour le Mali. Ce n'est que de la manipulation.
Et ce n'est pas la première fois que le Conseil de sécurité brandit les sanctions contre les acteurs entravant le processus de paix au Mali. Pour Boubacar Salif Traoré, spécialiste des questions sécuritaires, ces sanctions n'ont pas d'impact direct sur ces acteurs, car ces derniers, explique-t-il, évoluent généralement dans l'informel. Boubacar Salif Traoré est au micro de Mohamed Ali Agalaïda.
Ce sont des personnes qui ne sont pas directement touchées lorsque elles n'ont pas besoin de voyager ou lorsque leur activité financière tourne essentiellement dans des activités informelles, elles ne se sentent pas très impactées. Ce sont des sanctions qui n'ont pas beaucoup d'impact. On se rappelle de la conclusion du dialogue national inclusif qui avait dit qu'il fallait une relecture de ces accords parce que tout simplement, il y a eu des problèmes d'inclusivité au sein de la population. Maintenant, en interne, bien évidemment, il y a quelques personnes qui disent effectivement qu'il est hors de question qu'on touche à l'accord en l'état. Ces personnes-là peuvent quelquefois constituer des obstacles, mais en réalité, leur sanction depuis 2017 n'a pas eu un très grand impact sur la mise en œuvre de l'accord.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte Twitter. La tension ne retombe pas dans la zone de Massina, région de Ségou. Un chasseur d'Onsou a été tué et plusieurs autres blessés suite à un affrontement avec des groupes djihadistes. L'information est rapportée par un responsable de la milice de chasseurs présente dans la zone. Pendant ce temps, des localités restent toujours assiégées par des présumés terroristes, empêchant les populations de faire les travaux champêtres. Mamadou Samasekou.
Tout est parti de l'interception d'un camion suspect par les chasseurs de Béwani, explique le chef de la milice de Kémassina. Il ajoute que le véhicule contenait des balles de chaussures et plusieurs centaines de bidons de carburant. Selon lui, c'est en voulant ramener le véhicule à leur base à Kémassina qu'ils ont été pris en embuscade par des présumés djihadistes. Les échanges de tirs qui ont duré 2 heures de temps auraient fait un mort et 5 blessés dans les rangs des chasseurs. Une version contredite par une source militaire. Cette dernière affirme que les militaires ont surpris les chasseurs en train de vider le contenu d'un véhicule particulier. Les assaillants ont pris la fuite après des échanges de tirs avec les femmes, rapporte la source militaire. La situation reste tendue dans la zone depuis plusieurs semaines. À Farabougou, localité qui a été longtemps assiégée, les populations manquent de plusieurs produits de première nécessité depuis plus d'un mois, signalent des sources locales. Non loin de là, la localité d'Ogofri est également sous menace djihadiste. C'est au péril de leur vie que des gens se rendent à Nyono pour s'approvisionner, témoignent des habitants.
Autre sujet, le débat sur les réformes politiques et institutionnelles continue au sein de la classe politique. Si le gouvernement et certains partis politiques sont unanimes sur la nécessité de la tenue des assises nationales de la refondation et la création de l'organe unique de gestion des élections, le Front pour la réussite de la transition juge inopportune ces réformes. Les détails avec Khalifa Goïta.
Pour Omar Ibrahim Touré, président du parti Alliance pour la République, les axes prioritaires du plan d'action du gouvernement répondent aux aspirations actuelles des Maliens.
Ce sont des démarches que nous partageons. C'est à nous vraiment de nous asseoir sans agenda caché. Et là, maintenant, nous allons être d'accord sur ce qu'il faut faire. Voilà, maintenant, la mise en œuvre dans le temps imparti. Mais si cela n'est pas possible, trouvons la solution.
Mais cet avis n'est pas partagé par le parti PS Yelenkoura. Pour ses responsables, la tenue des assises nationale de la refondation et la création d'un organe unique de gestion des élections ne sont pas une nécessité dans le contexte actuel du pays. Amadou Koïta, président du parti PS Yelenkoura.
Tous les experts indépendants qui n'en sont pas instrumentalisés ont estimé que l'organe unique des élections, sa création et sa mise en œuvre prendra 2 ans. Et si on veut forcer, celui qui le force, celui qui sera responsable pour tout glissement. Donc pour nous, les 18 mois doivent être respectés.
De leur côté, certaines organisations de la société civils se disent inquiètes par le flou entretenu par les autorités de la transition sur le respect du délai de la transition et le chronogramme des élections.
Je vous l'annonçais dans le titre, la rareté des pluies inquiète les paysans du cercle de Kolokani. Ils estiment que les quantités de pluie recueillies du début de l'hivernage à maintenant sont insuffisantes et ne permettront pas la réussite de la campagne agricole. Cependant, pour la direction locale de l'agriculture, la campagne agricole 2021 a été caractérisée à Kolokani par un démarrage précoce de pluie. Un reportage de notre envoyé spécial de retour de Kolokani, Moussa Malé Sissoko.
Nous sommes à Djadjirila, un village situé à 3 km de la ville de Kolokani. Ici, la période de labour est à la phase de désherbage des champs. Mais ces derniers temps, la rareté des pluies angoisse les cultivateurs. Mamadou Koulibaly est paysan et détenteur de près de 2 hectares sur lesquels il cultive les milles et les maïs.
L'hivernage de cette année est différent de celle de 2020. Il y a sérieusement un manque de pluie. Pourtant, l'an dernier, à pareil moment, cela trouvait que l'hivernage était normal.
Un peu plus loin de là, nous avons rencontré Bakoro Kane, cette paysannes et ses sœurs étaient en train de désherber leurs champs d'arachides d'un hectare. Bakoro Kane s'est dit inquiète de la suite de la campagne agricole.
Vraiment, ça ne va pas du tout. La terre devient de plus en plus sèche. Ça fait des semaines qu'il n'a pas beaucoup plu. Nos cultures commencent à s'effriter.
Selon le chef secteur de l'agriculture de Kolo Kane, Lansina Keita, les prévisions agricoles n'ont pas été atteintes.
Quand il a eu des séquences longues de sécheresse du mois de juin jusqu'au troisième décade du mois de juillet, les pluies n'étaient pas au rendez-vous. Jusqu'à au-delà du 10 août, les paysans ont continué à s'aimer. Cette année, les pluies ont été très faibles et très mal réparties dans le temps et dans l'espace. Les besoins en eau des cultures sont palpables.
Un déficit en pluviométrie pourrait s'avérer risqué pour une population majoritairement paysanne, prévient Lansina Keita. Mais il rassure que l'espoir est permis. Moussa Malé Sissoko, de retour de Kolokani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour dans les régions à Nsongo. Des agents d'une ONG locale en mission de distribution des céréales ont été victimes de braquage hier à Bazigourman. L'attaque a été commise par des hommes armés non identifiés à moto. Des témoins affirment qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine et de blessés. Toutefois, ils précisent que les assaillants sont partis avec le relais communautaire et les deux motos appartenant aux agents de l'ONG. Au même moment, à Fafa, dans le cercle d'Nsongo, un camion-citerne a été incendié par des hommes armés non identifiés. Le plaidoyer non violent et les techniques de résolution des conflits, c'est le thème d'un atelier qui a démarré hier à Kaye. La rencontre réunit une trentaine de jeunes venus de la commune de Tafasirga Gadjaga. L'objectif est d'outiller les jeunes leaders d'associations sur la gestion non violente des conflits. L'activité est organisée par Mercy Corps à travers le projet LAFIA en partenariat avec Think Peace sur le financement de l'USAID. Dans quelques minutes, ce sera le grand dialogue. Bonsoir, Mariam Maïga.
Bonsoir, Assetou Kanté.
Ce soir, vous allez aborder quel sujet dans le débat?
Alors, nous allons parler de trois choses. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui a renouvelé son régime de sanctions contre le Mali et également de l'augmentation de 25% des violations des droits de l'homme dans le pays et encore du rapport du Centre Carter paru la semaine dernière qui parle des lenteurs accusées dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation.
Merci et très bon débat. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujetamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute dans quelques minutes. La question A. Le programme alimentaire mondial vole au secours de certaines catégories de ménages dans des zones du centre et du nord du pays. Cette initiative vise à apporter un soutien alimentaire aux personnes vulnérables durant les 4 mois de période de soudure, soit de juillet à octobre 2021. L'initiative concerne les personnes déplacées internes, les personnes résidentes vulnérables, les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 2 ans. Elmedi Ndiaye est le chargé de programme préparation et réponse aux urgences au sein du PAM. Il répond aux questions de Sekou Gadjiko.
Au niveau du cadre harmonisé, c'est-à-dire le gouvernement a pu identifier environ 1,3 million de personnes qui ont besoin d'une assistance d'urgence. Et le PAM en appui au gouvernement compte cibler environ 600 000 personnes, dont 416 000 personnes vulnérables à la soudure. Et à côté de cela, le PAM va couvrir aussi 184 000 personnes déplacées dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. Et il y aura aussi une composante nutrition pour accompagner ces efforts d'assistance alimentaire.
Quels sont les bénéficiaires de cette intervention?
La première activité, qui est une assistance alimentaire d'urgence, cible 2 types de bénéficiaires. Le premier type, ce sont les personnes résidentes vulnérables à la soudure. Et ensuite, le deuxième type, ce sont les personnes déplacées. Et ensuite, la composante nutrition cible des individus, les femmes enceintes ou mères allaitantes et les enfants de moins de 2 ans qui sont à risque de malnutrition.
Quels sont les critères du ciblage ainsi que les bénéficiaires de cette assistance?
En mars 2021, nous avons eu une grande session qui a abouti à cibler les cercles qui sont en phase crise ou pire, c'est-à-dire en phase 3 à 4. Et ensuite, nous avons des partenaires coopérants dans ces zones d'intervention qui nous appuient à identifier les villages qui sont encore les plus vulnérables dans ces communes qui ont été ciblées. Et cela se passe en étroite collaboration avec les communautés elles-mêmes. Le plus important de ce processus de ciblage est clôturé par une appropriation par les communautés elles-mêmes. C'est-à-dire ce sont les communautés elles-mêmes qui ciblent les personnes les plus vulnérables. Et nos partenaires coopérants procèdent aux distributions sur la base de ces listes qui ont été proposées, discutées et validées par les communautés elles-mêmes.
Quelles sont les modalités d'assistance?
Les 2 premiers mois, le PAM compte fournir une assistance sous forme de bons alimentaires ou si vous voulez des coupons contre des denrées. Donc ça, c'est les mois de juillet et août. Ensuite, il y a les 2 mois suivants, septembre et octobre, le PAM compte couvrir les besoins à travers une modalité mixte, c'est-à-dire une partie en coupons et une partie en vivres. Et ces coupons respectent la préférence et les choix des bénéficiaires dans nos zones d'intervention. La valeur des coupons varie de 18 000 francs CFA à 25 500 francs CFA pour les ménages vulnérables à la soudure. Et ensuite, il s'est déplacé sur base de leur vulnérabilité et sur base également des prix du marché, reçoivent des coupons dont les valeurs varient de 18 000 francs CFA à 51 000 francs CFA. À cela s'ajoute une composante nutrition qui cible les femmes. Et ces femmes, pour l'instant, à cause de certaines contraintes de ressources, ne vont être assistées que dans la région de Tombouctou.